Chapitre 2. Le septième ministère. Zizot se tenait debout sur le pont des Arts. C'était son endroit préféré dans Paris. De là, il pouvait voir tous les monuments qui avaient compté dans sa vie. La flèche du tipi qui dépassait des toits, mais aussi les tours du sanctuaire, la longue façade du château au-dessus de la Seine, la porte de la cour carrée s'ouvrant sur le pont, et, au loin, la colline blanche de Montmartre, celle où il avait embrassé Alix pour la première fois.
Zizot ?
Il se retourna. Alix sortait justement de la porte de la cour carrée pour courir vers lui, enjambant 4 à 4 les planches du pont.
Désolé, je suis en retard. Le conseil a traîné en longueur. Tu te doutes pourquoi ?
Zizot observa Alix courir vers lui, légère et grand sourire. Elle portait une robe pour la première fois de l'année. Une robe fine et blanche à bretelles et fleurs de tournesol que Zizot n'avait jamais vue. Depuis le birthday, le soleil s'était installé sur la ville. Un vrai miracle, puisqu'il avait plu sans discontinuer pendant les 15 jours précédents, plongeant les rues dans un brouillard presque continuel. À en croire le ciel bleu et l'absence de vent, le beau temps semblait bien parti pour rester, comme si le feu d'artifice tiré la veille avait définitivement effrayé les nuages. En 3 nouveaux bonds, Alix se retrouva dans les bras de Zizot et lui offrit un baiser sur les lèvres. « T'es trop belle !» avoua le garçon. Alix posa sa main sur sa couronne de roses et effectua un tour de toupie faisant voler sa robe façon pétale de fleurs soulevée par le vent.
« Vive l'été !»
Alix, depuis 1 an, avait laissé pousser ses cheveux jusqu'aux hanches et un peu laissé pousser son corps aussi. Elle était devenue plus fine, plus sportive et faisait désormais exactement la même taille que Zizot. Ils en plaisantaient souvent tous les deux. Alix jurait qu'elle finirait par le dépasser. Zizot, par rapport à la plupart des autres garçons, avait gardé son gabarit de petite souris. Et il n'était pas rare au château qu'on continue de l'appeler Zizomis. Tous les deux baissèrent les yeux. Ils connaissaient les traditions du monde d'avant le passage du nuage. Ils avaient vu les photos des balustrades du pont des Arts couvertes de cadenas, accrochées par des amoureux de la terre entière. Mais les cadenas ne servaient plus à rien dans le monde d'aujourd'hui, et l'on n'y croisait pas beaucoup d'amoureux, à part eux. Il y a des mois, le jour du tournoi de l'étoile, quelqu'un avait eu l'idée d'accrocher une fleur aux grilles pour remplacer les cadenas de jadis. Personne ne savait qui avait, le premier, coincé la tige de cette jonquille entre les fils de fer, mais dans les jours qui avaient suivi, tout le monde avait fait de même. Et bientôt, les barrières du pont des Arts avaient été couvertes de fleurs. On venait les accrocher pour faire un vœu, en souvenir d'un papa ou d'une maman qu'on n'avait pas connue, ou simplement pour faire joli. « À Cannes, va mieux ?» demanda Zizot en redevenant sérieux.
« Oui, juste quelques brûlures, quelques griffures de bile, mais rien de grave. Il a la peau dure. »
Ils continuèrent de suivre des yeux le fleuve, observant les pétales multicolores qui tombaient dans l'eau et dérivaient lentement en confettis mouillés. Zizot ferma les yeux. Il revoyait, 1 an auparavant, Mordelia quitter la cour carrée par ce même pont, seul, simplement suivi à distance par Bill. Le noir de sa tenue de sorcière contrastait avec les couleurs flamboyantes des fleurs sur le pont, 12 mois plus tard. « C'est dommage d'en être arrivé là, » murmura Zizot. « Cette violence, ce camp brûlé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, » assura Alix. « Au moins, il n'y a eu aucune victime. Si on avait attendu, cela aurait été pire. Et tu sais que c'est le conseil qui décide, pas la reine. Et nous ne sommes plus seulement 5 à voter. » « Je sais. » Zizot prit la main d'Alix. « Et que va devenir Mordelia ?» ajouta le garçon. « Tu ne crois pas qu'elle va reconstruire un autre camp ailleurs, dans 1 an, dans 2 ans, et que tout recommencera ?» Alix, instinctivement, redressa sa couronne de roses.
« Si, mais alors ce ne sera plus à moi d'envoyer des soldats. Je ne serai plus reine.
Tu vas être réélue,
dans une semaine. Pour la troisième fois, tout le monde va voter pour toi. Cette fois, ce sera la dernière. J'en ai assez des responsabilités. Regarde, même nous, on va finir par se disputer.
Zizo parut surpris. Pourquoi tu dis ça ?
Parce que même si on est tous d'accord pour dire que Mordelia et Bill représentent un danger, au Tipeee, vous avez quand même envie de la protéger. Elle est des vôtres. Vous avez grandi avec elle. Et pas mal d'ados doivent penser qu'elle a raison de se méfier de nous, au château.
Pas moi, pas Akane, pas Agnel, pas...
Évidemment, coupa Alix, pas vous. Mais Jeanne d'Arc est revenue en escortant une vingtaine de moineaux, presque tous des ados du Tipeee. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ?
Leur expliquer, assura Zizo avec conviction. Leur expliquer encore et encore qu'on est tous semblables, qu'on doit s'entraider, qu'on doit comprendre ce qui est arrivé, explorer le monde et...
Alix éclata de rire. C'est exactement ce que j'ai dit au conseil.
Zizo adora cet instant de complicité. Il aurait voulu qu'il dure une éternité.
Alors tu vois bien, Majesté, on ne se disputera jamais.
Il invita Alix à se pencher au-dessus de la barrière tapissée de fleurs.
On fait un vœu pour le birthday ?
Alix remarqua que Zizo avait glissé deux tulipes à sa ceinture. Ils tressèrent ensemble les longues tiges, puis cherchèrent un espace libre pour accrocher les deux fleurs liées.
On doit y penser très fort, précisa Zizo, mais ne jamais le révéler.
D'accord, fit Alix. Bouche de fer et cœur de verre, même si je suis certaine qu'on va faire le même.
Ils coincèrent la double tulipe au-dessus de la scène. Un pétale, un seul, s'en détacha et tomba tout doucement jusqu'au fleuve. Ils regardèrent le petit point rouge dérivé avec le courant jusqu'au méandre, devant le musée aux deux horloges, en face de la place de l'aiguille, où il alla s'échouer contre la coque du bateau amarré. Dans le même mouvement, Alix et Zizo levèrent les yeux, suivirent la courbe de la coque, puis grimpèrent sur le pont du voilier pour s'élever jusqu'au sommet du mât de misaine. Agnel était perché tout en haut, occupé à accrocher les voiles. Zizo eut envie d'appeler son meilleur ami, mais il n'était pas certain qu'il l'entende à cette distance. Et surtout, il avait peur de le déconcentrer. Agnel était suspendu en funambule à 20 mètres au-dessus du pont, sans aucune attache pour le retenir en cas de faux pas.
Eh oh ! Les amoureux !
Alix et Zizo se retournèrent. Le cri provenait d'une des fenêtres du château, qui s'était ouverte d'un coup. Le visage de Sabi apparut. Elle se pencha jusqu'à presque enjamber le rebord de la fenêtre. Toute sa féminité, sa blondeur, ses yeux clairs, sa poitrine gonflée dans son t-shirt rose framboise contrastaient avec la force de sa voix, assez puissante pour réveiller tous les chats et les chiens errants de Paris.
« Ma petite reinette adorée, t'as pas oublié ton grand discours du Champ de Mars dans moins de 2 heures ? Alors secoue-toi les puces ! J'ai pas envie que Sa Majesté et au passage ma meilleure amie se présente pour le discours du siècle habillée comme un sac, avec une couronne de roses fanée sur le crâne, une tête de parchemin jaunie et des yeux bouffis de moufette restés dans son trou tout l'hiver. Mes copines t'attendent! Tu vas être la reine de la Lollywood! »
Alix, pourtant habituée aux excès de Sabi, en resta bouche bée. Sabi enchaînait déjà.
Et toi, Zizomis, le joli cœur, au lieu de regarder flotter les fleurs, amène-toi. Pour une fois, j'ai du boulot pour toi.
Sabi et Zizo se tordaient le cou pour admirer le plafond peint de la rotonde d'Apollon, la pièce circulaire où, depuis leur naissance, ceux du château s'étaient assis pour suivre sur un écran géant les messages de Marie-Lune. Marie-Lune leur avait dit adieu ici. Un jour de veillée du sanctuaire, juste avant la chute du soleil de fer. Mais les ados du château avaient continué d'y tenir leur réunion, jusqu'à il y a un an. Puis, avec l'arrivée de ceux du Tipeee, la pièce ronde était devenue trop petite pour tous les accueillir, et désormais les grandes assemblées se tenaient dans le sanctuaire. Depuis, la rotonde d'Apollon était restée une salle sacrée, symbole de la réconciliation entre tous les ados.
et du monde nouveau qu'ils devaient construire ensemble dans le respect des commandements de Marie-Lune. Zabi baissa les yeux vers le garçon qui se tenait entre Zizo et elle. Un gabarit encore plus petit que l'amoureux d'Alix. On aurait dit qu'il avait 10 ans.
Regarde, tête de piaf,
fit Zabi en s'adressant à lui.
Ça a changé, hein, depuis que tu t'es envolé pour aller jouer aux Indiens dans les jupes de ta sorcière. Alors, écoute bien, parce qu'on m'a chargé de te rééduquer.
Observant les yeux affolés du garçon, Zizo essaya de calmer un peu le jeu. Le conseil, présidé par Alix, avait demandé à des volontaires de prendre en charge le retour au château de chacun des 20 moineaux pour les convaincre de rester, les rassurer et les intégrer à nouveau à leur communauté. Zabi et lui n'avaient pas pu refuser de prendre leur part dans ce programme de réconciliation. « T'étais parti depuis quand, Pépin ?» demanda-t-il.
« La fin de la trêve, »
bredouilla le moineau. Soit près de 9 mois, calcula Zizo. Pépin était l'un des premiers moineaux à avoir rejoint Mordelia. Personne n'avait vraiment compris pourquoi, même si Pépin était connu pour être l'un des ados les plus peureux de Paris et que Mordelia l'avait soigné plusieurs fois.
« Ok, mon canari !» reprit Zabi. « Alors, je vais t'offrir un cours de rattrapage express sur tout ce qui s'est passé depuis que tu as quitté le nid. Bon, pour les cours, rien n'a changé. On a toujours les 3 pavillons, les musclés du biscotto chez les soldats, les musclés du cerveau chez les savants et les musclés de rien du tout, à part de leur ego, chez les singes. On n'a pas fait subir de tests à tes copains du Tipeee. Ils ont choisi le pavillon qu'ils voulaient. La plupart ont voulu être soldats, ce qui ne m'étonne pas, bande de petits sauvages bagarreurs. Mais il y a des exceptions. Comme Agnel, le garçon faucon, ou Vanille, la fille chenille, qui ont choisi les savants, ou Suzy, ma pipelette adorée, Nadir, le tisseur, ou Chrysante, la gentille timbrée, qui ont choisi de devenir singe. Jusque-là, tu me suis ? Grâce à vous, les barbares, on a quand même gagné plus de 2 mois de vacances d'été. Mais ça, tu t'en souviens, petit malin, puisque tu t'es tiré d'ici dès que les cours ont repris.
Pépin se dandinait d'un pied sur l'autre, d'une case noire à une case blanche sur le sol de marbre en damier. Mal à l'aise, visiblement impressionné par l'assurance de cette fille qui, à l'inverse de lui, paraissait avoir déjà au moins 16 ans.
« Arrête de tortiller comme un merle qui a avalé une perle. C'est toi qui as raison. Mais t'aurais pu te contenter de sécher les cours plutôt que d'aller rejoindre Vampirella. Allez, regarde devant toi. »
Elle saisit Pépin par les épaules et le planta face à une plaque de marbre clouée au mur.
« On vient de la graver. Alors profite. Si tu veux être un bon petit citoyen, tu dois l'apprendre par cœur. »
Zizo se demandait si la méthode de Zabi était la bonne pour convaincre Pépin de ne pas s'enfuir à toutes jambes dès qu'on rouvrirait les portes du château. Mais plus il regardait Pépin, plus ses doutes s'estompaient. Le moineau paraissait obéir à Zabi comme un petit frère obéit à sa grande sœur. Ou du moins, comme un petit frère devait le faire dans le monde d'avant, puisqu'évidemment, aujourd'hui, tous les ados étaient fils et filles uniques, à l'exception des jumeaux Lunella et Solario. Un instant, Zizo se demanda si ses parents avaient eu d'autres enfants avant que le nuage passe. S'il avait un grand frère ou une grande sœur, il ne le saurait jamais. Zabi lui donna un coup de coude qui le tira de ses pensées.
Dis donc, la musaraigne, tu pourrais montrer l'exemple et te concentrer un peu. Je sais bien qu'en tant que grand réconciliateur en chef et chouchou de la reine, tu as toujours refusé d'entrer dans le conseil. Mais montre un peu de respect pour nos représentants vénérés.
Elle s'inclina devant la plaque en exagérant une révérence. Pépin fit respectueusement de même. Zabi éclata de rire.
On te demanderait de te cogner la tête contre le marbre, tu le ferais aussi? Tu ne sais pas lire, je suppose. Alors, écoute.
Un peu plus sérieusement, elle parcourut la plaque devant eux.
Composition du gouvernement du Nouveau Monde, plaque posée le 21 décembre de l'an 12, jour de la veillée du sanctuaire. Reine Alix, conseiller spécial, Augenor. Jusque-là, tu vois, ça ne change pas. Secrétaire général de la paix, à Cannes. Ah, ça, c'est une sacrée trouvaille, commenta Zabi. Tu peux me croire. Akane est le plus beau gosse de toute la galaxie.
J'ai longtemps cru que c'était Novak, mais je peux te jurer qu'il n'y a pas photo entre le blondinet manieur de Beau et votre chef du tipi.
Il pourrait te réduire en bouillie tout le pavillon des soldats rien qu'avec ses bras. Mais il est au-dessus de ça.
C'est Alix qui a eu l'idée de lui confier cette mission. Garantir la paix. Tous les petits sauvages du tipi le respectent. Et Akan respecte nos traditions du château. Même s'il est un peu trop...
Un peu trop quoi ? Demanda Pépin, surpris que Sabine ne termine pas sa phrase. Zizou remarqua que Sabi avait légèrement rougi.
Un peu trop rien,
abrégea Sabi.
Allez-y, on passe au gouvernement. Tous les enfants réunis au sanctuaire sont tombés d'accord pour créer 6 ministères et donc pour élire 6 ministres, histoire d'élargir le conseil et de remplacer les 3 délégués. T'es prêt ?
Elle lut les lignes suivantes sur la plaque de marbre.
Ministre des inventions, Liu. Ministre du jour et de la nuit, Vanille. Ministre des punitions, Jean d'Arc. Ministre des plantes, des animaux et de la terre, Agnelle.
Tu auras remarqué, mon petit trognon, qu'on a respecté la parité entre ceux du château et ceux du tipi.
Mais que c'est pas vraiment le cas entre les filles et les garçons. Ben voyons.
Pépin paraissait toujours tétanisé. Zizou l'observait murmurer des mots inaudibles entre ses lèvres serrées. Était-ce parce qu'il essayait de tout retenir ?
Pas de question, le moignon. On continue ?
Si,
osa chuchoter Pépin.
Ça veut dire quoi, ministre du jour et de la nuit ?
Ça veut dire que Vanille s'occupe de l'organisation des repas, des dortoirs et de l'hygiène. Tu vois, genre remplir le frigo, laver les chaussettes, s'assurer que le balai est passé dans les chambres une fois par semaine. Bref, tout ce qui est passionnant et dont devaient sûrement s'occuper les parents. Avant. Comprendo ?
Pépin hocha timidement la tête.
Alors, on avance. Ministre des voyages, Solario. Ministre du temps passé, Isalis. T'as noté que cette fois, ce sont 2 représentants du château. Ça fait 4 sur 6 ministres, mais tout le monde au tipi aime bien Solario. Ça fait aussi une fille de plus, ma grande copine Isalis. Mais si tu comptes bien, on n'en reste qu'à 2 filles sur 6. Et je ne te raconte pas lesquelles. Une maniaque psychopathe, Vanille, et une obsédée du temps d'avant, Isalis.
Pépin hocha la tête comme s'il approuvait. Pas contrariant le moineau, pensa Zizou.
Voilà, tu sais presque tout, conclut Sabi. Sauf si tu as envie que je te parle du 7e ministère.
Oui.
Oui, bien sûr.
Bafouilla Pépin. Zizou se retenait pour ne pas éclater de rire.
Mon poui-poui, fit Sabi en haussant la voix. S'il y a un ministère qui ne sert à rien, c'est bien le ministère du temps passé. Il est réservé aux singes et à leur obsession de tout ce qui est vieux. Vieux tableaux, vieille musique, vieilles idées. Alors je l'ai rebaptisé.
Pépin ouvrait des yeux ronds.
Et j'ai créé le ministère du temps passé à ne rien faire.